Alors Jacqueline, cette histoire a détraqué nos électroménagers, le ras-le-bol des superwomen.
Michèle Fitoussi, superwoman avec deux enfants et journaliste au magazine Elle. Elle vient d'écrire un livre qui m'a beaucoup fait rire et que j'ai beaucoup aimé, « Ras-le-bol des superwomen ». Tout d'abord, les superwomen, c'est qui ? La superwoman, modèle classique, sport, vit en couple, légitime ou pas, possède quelques enfants de 0 à 16 ans, les siens, plus éventuellement les week-ends, ceux du premier mariage de son conjoint. Bien évidemment, les divorcés, les veuves célibataires, etc., avec bambins à charge et père inexistant, les « je ne paye pas la pension », ou trop encombrant les « je milite pour la condition masculine » et qui, en plus de ce quotidien-là, déjà lourd à gérer, navigue à vue entre sida et autres rencontres du troisième type pour se retrouver un super mec. Celle-là, donc les divorcées, veuves, célibataires, etc., mérite sur l'échelle de Richter de la superwoman un des barreaux les plus hauts. Quant à la superwoman sans enfant, le modèle existe, parfaitement homologué. Elle reporte sur le boulot, plus 1000 autres activités annexes, politiques, jardinage, animaux, œuvres de bienfaisance, amants, etc., le temps gagné sur le maternage. Et maintenant, que nous dit-elle de l'avenir, enfin, de ces superwomen ? Nous ne rentrerons jamais à la maison. On avait gagné. Enfin, on le croyait, le MLF et toutes les vieilles lunes du féminisme enterrées comme la hache de guerre des sexes. Au rencard, pancarte et calicot, Beauvoir, Millette, Freedom, que grâce leur soit rendue, ne sentaient plus le soufre. Tout juste la naphtaline. Plus de combat, plus de combattantes. La vieille génération, celle des 30-45 ans, contemplait fièrement ses acquis et en profitait. Cependant que la suivante, les 20-30, qui n'avaient pas connu les grands soirs de la sororité, empochait sans scrupule les dividendes des bagarres enflammées de ses aînés, la pilule, l'avortement, l'union libre, les lycées mixtes, le permis poids lourd, le droit au travail, 15 heures par jour, comme les mecs, eux, ils gagnaient au change, si j'ose dire, complet. Liberté, égalité, fraternité s'inscrivaient au féminin, au fronton d'une société désormais grande ouverte à la moitié du ciel. À l'aube des années 90, la femme ex-objet, ex-eunuque, ex-mystifiée, ex-libérée, ex-libre, ex-nouvelle, était enfin devenue une autre, c'est-à-dire elle-même. Tout le monde était pour une fois d'accord, les sondages, les pubs, les magazines féminins bourrés de superwomanerie glorifiaient les nouvelles battantes, les féministes, les essayistes qui constataient avec satisfaction que l'unisexe de mode virait au mode de vie. Pédégère, nouveau père, unis pour le meilleur et sans le pire, se partageaient le pouvoir et les courses au supermarché. La vision idyllique d'une mutation réussie, idyllique certes, mais fausse. Car voilà qu'insidieusement s'est repointée une nouvelle forme d'esclavagisme sournois, le degré ultime de l'asservissement féminin, son nom, la superwoman ou femme parfaite. Le nouveau mythe des femmes d'action, le dernier modèle à suivre, un être hybride, bizarroïde, croisement d'executive women et de maman de choc. La voilà qui s'avance d'un pas énergique à la conquête du monde ou au bord de l'abîme, car souvent l'enfer touche au paradis. À peine le temps de savourer notre liberté toute neuve, durement gagnée sur le front du féminisme, qu'on s'est bêtement retrouvée seule en piste. Avec, sur les épaules, comme Atlas portant le monde, Infatigable, insatiable, on a voulu mettre les bouchées doubles. On s'est lancé d'un seul élan dans nos nouveaux acquis. Le boulot à corps perdu et le sexe à corps joie, tout en conservant précieusement le vieil héritage de nos aïeuls, bonne mère, bonne épouse, bonne maîtresse de maison. Beaucoup pour un seul être, mais on n'a pas craqué, on a crâné. Et poussé la barre plus haut, mode, art, littérature, beauté, politique, etc., on a voulu être partout et exceller en tout. On, nous bien sûr, nous, toutes ces superwomen dont le mot d'ordre obligé est de tout concilier. Nous essaimons partout, dans toutes les sphères, des femmes qui travaillent par obligation avec des métiers pénibles ou peu valorisants et qui se slalomment entre enfants, chez Fayon, maison, etc., aux leaders qui chassent sur le même terrain de travail que les hommes, perchés comme eux sur les plus hauts barreaux, en passant par toutes celles qui, sans être des businesswomen, incapables, ont mené leur carrière comme elles l'entendaient. Ce sont surtout ces dernières qui se sont fait piéger, ces mutantes dont le credo n'est plus seulement tout mener de front, mais tout réussir. Et réussir avec facilité, et pas seulement le travail et la maternité, mais le reste, tout le reste. Elles, nous avons cru très fort à notre indépendance sans nous apercevoir que le jeu était truqué. Roulées par ces inconscientes de féministes qui nous ont bourré le crâne avec leurs belles idées pour mieux nous larguer ensuite au milieu de la route. Roulées par le nouvel homme, le nouveau père, qui ont fait trois petits tours avant de s'évanouir en fumée. Roulées par la pub, les médias, les mauvais exemples, par la société qui a pour tous les ambitieux les yeux de chimène. Par nos patrons, par nos mères, par nos enfants, par nos psys. Bref, par tous ceux qui nous voient courir dangereusement vers le précipice en nous applaudissant. Ras-le-bol d'être tout le temps celle qui assure. Ras-le-bol de porter à bout de bras tous les Hercules comme des Hercules de foire. Ras-le-bol de ne penser à nous qu'en fonction du plaisir qu'on donnera aux autres. Ras-le-bol d'être si performante que tout le monde prend l'habitude de se reposer sur nous, de foncer sans jamais appuyer la pédale du frein, d'être les dindes d'une farce qui s'est jouée sans nous. On a cru briser nos chaînes, on n'a fait que de les consolider. Ras-le-bol d'être des superwomen, super en tout, sauf pour nous-mêmes. Le bonheur est dans le pré. À force de courir, on l'a dépassé. On n'a pas vraiment de quoi bâtir un mur des lamentations, tout juste un petit muret. Sûr que nous sommes des privilégiés, le travail nous donne, outre d'irremplaçables satisfactions intellectuelles et morales, l'autonomie, l'indépendance, le nécessaire vital et le superflu, ô combien indispensable. Car, entendons-nous bien, ce ras-le-bol qui fait qu'on en a assez d'assumer une demi-douzaine de vies à la fois ne signifie nullement qu'on veuille baisser les bras. Une chose au moins est claire, nous ne rentrerons jamais à la maison. La vie à l'extérieur est notre deuxième poumon. Qu'on débranche, c'est l'asphyxie. On voudrait simplement un peu de temps à nous, sans effort, sans contrainte. On voudrait quelquefois pouvoir dire « je ne joue plus, pousse !»« J'ai envie de souffler !» En bref, qu'on nous fiche la paix. Ne plus être des femmes exemplaires, mais de simples humaines. Tant que nos hommes n'y mettront pas beaucoup plus du leur, tant que nous voudrons tout courir à la fois, nous, les superwomen, nous aurons encore de beaux jours à râler devant nous. Ras-le-bol des superwomen! Thank you.
c'était un extrait de la sonate pour violon et piano de Prokofiev, Allegro con brio, interprété par Catherine Courtois et Catherine Collard. Et maintenant, ménage-toi du temps pour aller voir Les ailes du désir, le dernier film de Wim Wenders. J'ai essayé de relater pour vous les propos de Wim Wenders à propos de son film. De retour en Allemagne, plus particulièrement à Berlin, Wim Wenders nous raconte un superbe conte philosophique, Les ailes du désir, une histoire d'ange où il proclame sa foi en l'homme et la possibilité du bonheur. Dans le ciel de Berlin vivaient autrefois deux anges, non pas des joufflus chérubins, mais des créatures d'âge mûr, des anges dans la quarantaine, pareillement vêtus d'un trench coat un peu démodé. Les enfants les apercevaient parfois alors qu'ils se reposaient sur le toit d'une église. Les adultes, eux, ne croyaient pas à leur existence, et cette incrédulité suffisait à douer les anges d'invisibilité. Les adultes avaient tort. Que seraient devenus les Berlinois sans leur vigilant bienfaiteur ? Dans la rue, dans le métro, dans leur logis, partout où les hommes souffraient, Damiel et Cassiel étaient là pour soulager la peine. À l'ouvrier turc déprimé, ils prodiguaient quelques muets encouragements. Au vieillard abattu, une imperceptible caresse. Et ces petits gestes magnifiques suffisaient à améliorer l'ordinaire de leur existence. Les anges ne s'étaient d'ailleurs pas installés à Berlin par hasard. À leurs yeux, extra-lucides, cette ville méritait bien plus de bienfaisance et de douceur que toute autre cité. Il le savait. Souvent, la terrible division de son territoire et le poids de son histoire tragique étaient difficiles à supporter. Un jour, pourtant, Damiel décida de s'affranchir de son angélique condition. Longtemps, les privilèges de l'invisibilité et de l'ubiquité, ses dispositions innées à la bonté, l'en avaient retenu. Mais il était tombé amoureux d'une trapéziste. Puis un ex-ange devenu comédien américain, un certain Peter Falk, alias Columbo, lui avait vanté les joies simples de l'existence, avait évoqué pour cette créature capable de tout saisir du monde, mais en noir et blanc, la beauté des couleurs. Cassiel eut beau mettre en garde son condisciple, lui rappeler la mortalité de la condition humaine, rien n'y fit. Damiel voulait vivre comme un homme, et comme lui, connaître la douceur du corps d'une femme, la saveur du café et d'une cigarette au petit matin. Son désir fut exaucé. Damiel se réveilla un jour dans le No Man's Land qui sépare le mur de l'ouest du mur de l'est. Des lapins trottinent autour de lui, il fait beau, le monde est en quadricromie. Damiel se dresse sur ses jambes, sourit, puis il part d'un bon pas faire l'apprentissage de la condition humaine.
Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war, alles war ihm beseelt und alle Seelen waren ein.
Après des années d'absence, je suis revenu en Europe, dit Wim Wenders, pour tourner Les ailes du désir. La naissance de ce film est profondément liée au désir, à mes désirs, celui de faire un film à et sur Berlin. Le désir de retrouver ma langue et l'Allemagne, que j'avais quittée cinématographiquement depuis trop longtemps. Le désir de dire également comment vivre dans ce monde aujourd'hui. Mon histoire ne pouvait se passer nulle part ailleurs. Berlin n'est pas seulement l'incarnation et le cœur de l'Allemagne, mais aussi un peu celui du monde. Dans mon pays, c'est la seule ville qui m'intéresse. Ailleurs, on ne ressent pas grand-chose en dehors du besoin frénétique de faire table rase du passé. Au contraire, Berlin porte ses blessures avec honnêteté, avec fierté même. La guerre n'a pas été effacée et reste présente jusque dans l'architecture. C'est le seul endroit qui n'essaye pas d'oublier. On trouve dans cette cité symbolique quelques traces du 19e siècle, des années 20, de la guerre, de l'après-guerre et bien sûr d'une réalité politique actuelle. Centre douloureux, à la fois fermé et ouvert, cette ville émotionnelle manifeste une énorme tolérance, justement à cause d'une pression continuelle. Elle est généreuse, on ne peut pas en dire autant des autres cités allemandes, le plus souvent inintéressantes. Aucune autre cité n'est à ce point symbole, à ce point lieu de survie. Berlin est aussi divisé que notre monde, que notre temps, qu'hommes et femmes, que jeunes et vieux, que riches et pauvres, et que chacune de nos expériences. Beaucoup disent que Berlin est foutu. Je dis, Berlin est plus réel que toutes les autres cités. Der Himmel über Berlin, le titre est tellement beau en allemand, il était impossible à transmettre en français, nous dit toujours Wim Wenders. Il contient vraiment une poésie, il s'impose comme un petit poème inexistant dans les autres langues. Traduit littéralement, sous le ciel de Berlin en français, cela ne donne qu'une signification alors que sa portée symbolique est fascinante. J'ai donc choisi un titre différent de la transcription littérale. J'aime bien Les ailes du désir, car le film contient également ce titre en lui. Il est à son tour intraduisible en allemand. Qu'est-ce qu'un ange ? Je ne crois pas que l'on soit entouré par eux. Je crois plutôt que chacun de nous renferme en lui son propre ange. Il symbolise l'enfant que l'on était autrefois et que l'on a oublié, l'innocence perdue au profit de la sagesse adulte. Pour cette raison, seuls les enfants les voient dans le film. Pour moi, la métaphore de l'ange se trouve dans cette relation à l'enfance. Grâce aux anges, je veux raconter des choses que j'aurais eu du mal à formuler autrement. Ils permettent de porter un regard plus objectif puisqu'ils observent les humains de l'extérieur, mais également subjectif quand ils s'attardent sur les personnes qui les touchent particulièrement. L'ange voit tout, il peut entrer dans les têtes, il entend des pensées secrètes, il est entièrement bon et exprime un point de vue magnifiquement libre. Parmi mes profonds désirs à l'origine du film, celui de l'amour était très fort. Après Paris-Texas, je me suis dit que la chose qui valait le plus le coup était de raconter tout ce qui était possible et non plus le contraire. Dans le dernier plan de Paris, Texas, lorsque Travis s'en va, c'était pour moi une manière de le laisser quitter la scène. Et à travers lui, c'était tous mes personnages masculins d'avant qui partaient. Il y avait donc un désir très fort d'un personnage de femme qui pouvait apparaître comme rôle principal. Longtemps j'ai hésité, en me disant que mon ange serait une femme. Mais j'avais envie que cet ange devienne humain. Et j'ai trouvé qu'il était plus intéressant que ce soit la femme qui soit l'être humain et que l'ange soit un homme qui paierait le prix de devenir mortel pour la rejoindre.
Wenn ich mit jemandem war, war ich oft froh, aber zugleich hielt ich alles für Zufall. Diese Leute waren meine Eltern, aber es hätten auch andere sein können. Warum war der mit den braunen Augen mein Bruder und nicht der mit den grünen Augen von Bernstein gegenüber?
Avec cette histoire des anges, la langue devenait importante. Il devait parler un langage poétique. Après 4 films tournés en anglais, hors de mon pays, il était important pour moi d'être de retour en Allemagne et de retrouver mon langage. Je voulais que mes anges pratiquent la langue parlée actuelle, mais un allemand beau et juste, un peu classique. J'ai donc fait appel à mon archange, Peter Hanke. Quand je l'ai appelé, il venait de terminer un roman et il m'a dit: ce serait bien de faire quelque chose ensemble à nouveau, mais je suis complètement épuisée, je n'ai plus de mots en moi, tout ce que j'avais, je l'ai mis sur papier. Mais il ajoutait, peut-être que si tu viens ici et si tu me racontes cette histoire, je pourrais t'aider à écrire quelques dialogues. Je suis allée le rejoindre à Salzbourg, je lui ai raconté tout ce que je savais sur mes anges. Nous avons passé une semaine à imaginer une douzaine de situations à l'intérieur d'une histoire possible, et Peter a commencé à écrire seul à partir de là. Il a parfaitement compris mes désirs. Pendant un mois, il m'envoyait chaque semaine quelques pages composées strictement de dialogues. Il a écrit les dialogues pour Marion, les anges et quelques autres passages. Il a également composé ce qui pour moi s'inscrit au cœur du film, ce poème sur l'enfance qui ouvre le film et revient plusieurs fois tel un leitmotiv. Lorsque l'enfant était enfant,
das Kind war. Ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer.
Dès que j'ai eu l'idée de tourner à Berlin, le noir et blanc s'est imposé, à cause de la ville bien sûr, mais aussi des anges. Je savais que je ne tournerais en noir et blanc la partie de Daniel, où Daniel est encore un ange. Les couleurs marquent le passage à la mortalité, avec le désir de goûter, de sentir, de voir, de toucher. Les anges ne connaissent pas le monde physique et les expériences humaines. Ils connaissent uniquement l'essence des choses, non leur contact. Ils ne perçoivent donc pas les couleurs. Ils les aperçoivent parfois, rapidement, quand ils arrivent à effleurer l'univers des mortels. La première moitié du film baigne tellement dans un climat de rêve que le noir et blanc s'imposait d'autant plus. Une fois que Daniel devient humain, le film bascule entièrement dans la couleur. You're 17.
17 at this time.
Et la morale du conte, car sans morale, il n'y a pas de conte. Et Wim Wenders, bien sûr, a réponse à cela. L'histoire d'amour commence dans mon film, là où les autres s'arrêtent. Mais chez moi, c'est la femme qui va définir les règles du jeu, les conditions mêmes de cet amour. Ce n'est pas si courant que cela. Comme le dit Wim Wenders, il y avait un tas d'anges dans l'équipe qui a réalisé le film, tant à l'image qu'au son et toutes les autres tâches. Les anges Damiel et Cassiel, c'est Bruno Ganz et Otto Sanders, la trapéziste Solveig de Martin, entourée de Kurt Bois et Peter Falk. Vous pouvez réécouter la magnifique bande-son qui a été éditée sur disque. Si vous voulez en savoir plus sur Wim Wenders, lisez le 400e numéro des Cahiers du cinéma. Wim Wenders en est le maître d'œuvre. Il a demandé pour ce numéro spécial à plusieurs cinéastes de parler de leurs projets de films jamais tournés et comment sont germés leurs films. Bien sûr, il parle des siens aussi et vous saurez donc tout comment sont nés les anges. Mais bien sûr, prenez le temps d'aller voir ce film.
Vous écoutez Ménage-toi sur Radio Zone 93.8, notre memento avec tous nos rendez-vous et nos activités.